Nous étions arrêtés au verset 4. Alors nous allons reprendre le verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Il faut entrer dans la maison qui ouvrira sa porte. Il y a là une circonstance, évidemment, qui aura été guidée du Seigneur, cela n'est pas douteux. Et le Seigneur incline les cœurs quand il le faut, il inclinera par conséquent le cœur de celui qui est appelé à recevoir les envoyés du Seigneur. Et les envoyés constateront simplement qu'une porte s'ouvre devant eux, qu'une maison les accueille. Et il faudra que les envoyés prononcent une parole qui sera non pas seulement une salutation évangélique, mais une prière et une sorte de prophétie qui sera suivie d'effet. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Je ne crois pas que la formule soit absolument impérative, mais c'est cette prière-là qu'il faut faire. Seigneur le dit. Le Seigneur le dit. Alors, c'est cela qu'il faut faire. Il ne faudra pas transformer la pensée que la paix soit sur cette maison. S'il se trouve un enfant de paix, qu'est-ce qu'un enfant de paix? C'est quelqu'un dont le cœur attend le message de Dieu, quelqu'un qui est disposé à recevoir le message de paix. C'est alors que la salutation aura son effet sur celui-là. Je l'appelle la salutation, mais c'est en réalité presque une prière qui comporte son exaucement. Et en effet, la paix sera sur celui-là. S'il se trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. La paix dont vous aurez formulé le souhait en entrant, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. C'est-à-dire que la paix ne sera pas donnée, mais vous la conserverez et vous conserverez le moyen, le pouvoir de la reporter, cette paix, ailleurs. Au verset 7, « Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. » C'est l'Esprit de Dieu qui aura guidé ses envoyés là. Alors, restez-y, prenez place à table et mangez sans crainte d'être importun ou sans le scrupule de priver vos hôtes de ce qui est leur nourriture. C'est peut-être un foyer tout à fait modeste au retour. Non, n'ayez aucunement ce scrupule. C'est Dieu, en somme, qui vous reçoit à la table de ceux qu'il va bénir. Vous ne les priverez de rien. Si ce sont des gens qui ont très peu à manger, le Seigneur les bénira, ils ne manqueront de rien. Vous mangez et buvez à cette table librement, soyez sans scrupule, vous mangez, le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas? Quand Jésus envoya deux de ses disciples prendre un petit ânon qui était attaché dans le village de Bethphagée, eh bien, les deux disciples allèrent et le Seigneur leur avait dit, si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et c'est ce qu'ils ont fait, on leur a dit, mais pourquoi prenez-vous cet ânon? Le Seigneur en a besoin, pas d'autre explication. Pas autre chose à dire. Le Seigneur en a besoin. Ici, le Seigneur dit, eh bien, dans cette maison-là, alors, vous mangerez, vous boirez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire, et n'allez pas de maison en maison. L'ouvrier mérite son salaire, ce que vous faites est une œuvre juste, une œuvre bonne, l'œuvre de Dieu, eh bien, votre nourriture et comme un juste salaire aussi, par conséquent, vous ne devez même rien à personne, c'est Dieu qui vous nourrit par l'intermédiaire de cet enfant de paix ou de cette maison. N'allez pas de maison en maison. Ah, ça, alors, c'est sans doute quelque chose qu'on interprète de façon diverse parce que il arrive qu'on ne s'y conforme pas. J'ai connu en Algérie des braves petits jeunes qui étaient magnifiques, ils étaient pleins de foi, mais ils avaient imaginé d'aller faire ce qu'on appelle du porte-à-porte. Alors on avait demandé à l'église de prier pour cela. Mais je sentais bien que plusieurs frères et sœurs et moi-même, nous étions plutôt gênés dans cette prière-là. Ça n'allait pas très bien, n'avions pas la liberté de prier pour ça. Et un jour, on a lu cela, n'est-ce pas, n'allez pas de maison en maison. Ce qui veut dire n'allez pas de porte en porte hein, aussi. C'est la même chose, n'est-ce pas. N'allez pas apporter à toutes les maisons, n'est-ce pas, le message pour trouver quelqu'un qui voudra bien le recevoir. Non, le Seigneur n'a pas dit cela. Évidemment, le sens direct ici, c'est n'allez pas manger et boire dans d'autres maisons, vous installez dans d'autres maisons, puis encore dans une autre, ne changez pas de maison. Quand vous serez accueillis dans une maison, restez-y jusqu'à la fin de votre mission dans ce pays. Mais en même temps, c'est certain, ça écarte aussi l'action qui s'appelle le démarchage de porte à porte. Les témoins de Jéhovah le pratiquent beaucoup, alors laissons-les le faire. N'est-ce pas? Mais n'allons pas sur l'heure brisée, étant donné que l'Évangile ne nous encourage pas du tout dans ce genre de travail. Dans un pays, ce sont les gens qui entendront dire, vous voyez partout dans l'Évangile, on entend dire, on a entendu dire qu'il y avait là un prophète, qu'il y avait là quelqu'un qui annonçait l'Évangile, qui guérissait les malades, et l'on vient, et le Saint-Esprit convoque. Le Saint-Esprit est capable de convoquer, et c'est cela que Dieu entend faire. Dans quelques villes, au verset 8, dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. La ville qui recevra les envoyés du Seigneur sera comblée. Les signes messianiques y abonderont. Ils accompagneront la parole du royaume et ce message sera reçu et entrera dans bien des cœurs, peut-être pas chez tout le monde, bien entendu, mais dans beaucoup de cœurs. Il y aura là un peuple de Dieu, un peuple que Dieu connaissait d'avance et qui sera levé à la prédication de l'Évangile. Alors là, les signes messianiques guérissaient les malades. Et bien entendu, n'est-ce pas, chasser les démons, ça n'est pas explicitement dit ici, mais enfin ça va ensemble. Les signes messianiques, tous les signes messianiques. Et ils seront donnés. Si l'on a respecté la mission du Seigneur, il est certain que les signes messianiques seront donnés. Moi, j'ai vu cela d'une façon peut-être un peu différente, si vous voulez, mais c'était le même principe, le principe qui est énoncé ici. J'ai vu, pendant le temps d'un réveil que nous avons connu, eh bien, aller dans une maison pour un malade, pour quelqu'un qui demandait dans cette maison-là, ou quelqu'un même qui avait demandé simplement une visite, pour son âme, pour entendre l'Évangile, pour demander des conseils. Et puis, d'autres personnes venir. D'autres personnes venir dans la maison. Au moment où j'y étais, ça je l'ai vu. J'ai vu une maison se remplir d'une douzaine de personnes au moins venues des maisons ou des appartements voisins. Hein? Et alors là, eh bien, je vous assure que les signes messianiques, ils y étaient. Ah, il n'y avait pas besoin de faire grand effort. Les signes messianiques étaient là. C'était magnifique. C'est ça qu'il nous faut retrouver, chers amis. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Il faut absolument, n'est-ce pas, que nous nous placions dans les conditions d'un bon service, d'un service vraiment fidèle, et le Seigneur aime l'obéissance. Il aime l'obéissance. parce que la désobéissance, elle est pire que la divination. C'est enseigné, n'est-ce pas, dans Samuel, la désobéissance est quelque chose qui vraiment, alors arrête la miséricorde de Dieu, arrête le bras de Dieu. Dieu aime l'obéissance. On se place dans les conditions de la parole. On s'y place, on s'y met humblement, et puis Dieu, lui, est fidèle et il comble. Au verset 9, nous avons vu le verset 9, mais au verset 10, « Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. » Ah, voilà quelque chose de tout à fait différent. Ça, c'est quelque chose à quoi l'on ne pense pas beaucoup aujourd'hui. On veut absolument, n'est-ce pas, que l'évangile soit uniquement une sollicitation en vue du salut. Oui, il est cela, bien sûr, qu'il y ait, n'est-ce pas, appel des âmes en vue du salut. C'est bien, mais on ne veut pas que la prédication de l'évangile soit éventuellement, et cette éventualité pourtant est retenue ici par le Seigneur, soit éventuellement un moyen de jugement. Un moyen de jugement. C'est difficile de se servir de l'évangile comme ça. C'est difficile, bien sûr. Il ne faut pas faire ça, n'est-ce pas, sur l'appréciation de l'homme. Oh, pas du tout. Il faut que ce soit évidemment toujours le Saint-Esprit qui guide les envoyés du Seigneur. Le Saint-Esprit qui les guide, mais à certains moments, il ne s'agit pas là d'amabilité quelconque, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas même de ménager ces gens-là, n'est-ce pas? Dans une ville, on ne vous veut pas, eh bien, allez dans les rues, vous allez parcourir les rues, et vous allez dire, comme Jonas à Ninive, encore 40 jours, et cette ville sera détruite, eh bien là, vous allez proclamer, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, attention, vous avez refusé l'évangile, vous avez refusé la miséricorde de Dieu, vous avez dit non, eh bien c'est le jugement qui vous attend. Nous secouons la poussière de vos pieds, nous n'avons plus rien de commun avec vous, c'est le jugement maintenant qui vous attend. Vous n'avez pas voulu du royaume de Dieu, sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Sachez-le, il est venu, vous n'avez pas voulu, vous l'avez repoussé, il vous reste maintenant quoi? Le royaume de Satan. Mais le royaume de Satan, vous allez connaître aussi la même destinée que Satan lui-même et que tous ceux de son royaume. Et vous voyez le verset 12 qui est alors d'une sévérité extraordinaire. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Sodome, c'est l'exemple du comble de la souillure. C'est un nom qui est considéré comme infâme. Le châtiment de Sodome a déjà été grand, mais attendez, son jugement dernier n'est pas encore venu, il sera rigoureux. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et pourtant, elle sera traitée rigoureusement, cette ville de Sodome. Eh bien, la ville qui aura refusé l'évangile sera traitée moins rigoureusement. Du temps de Sodome, l'évangile n'était pas annoncé. Évidemment, cette ville a eu en son sein un prédicateur, un homme qui était attaché à la justice de Dieu, bien qu'il se soit là mal orienté, mal dirigé, n'est-ce pas? C'était Lot. Mais cette ville n'a tout de même pas entendu la proclamation de l'évangile, comme ce serait le cas de cette ville qui refuserait les envoyés du Seigneur. Eh bien, vous voyez là, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus prononce une sorte d'avertissement terrible du jugement à l'encontre d'une telle ville. C'est un aspect de l'Évangile que l'on n'aime pas considérer et que l'on a perdu l'habitude de considérer. Est-ce que cette perte-là, n'est-ce pas, ne serait pas pour quelque chose aussi dans le fait qu'il n'y a plus la puissance d'autrefois? Parce que l'apôtre Paul, lui, il a employé, je ne dirais pas que c'est une sévérité, ce n'est pas une sévérité, c'est une réalité d'aspect rigoureux, mais ce n'est pas une sévérité, n'est-ce pas? C'est une constatation que doivent faire les envoyés de Dieu. Et dans Matthieu 24, au verset 14, nous avons ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais, chers amis, vous avez réfléchi à ça. On lit souvent ça et puis on ne médite pas suffisamment sur la portée d'un tel verset. Les nations dont il s'agit, c'est-à-dire celles qui seront tout à fait à la fin, les autres, bon, alors ça, elles ont eu des générations qui ont disparu de la terre maintenant, alors parmi ces générations, il y en a qui sont allées vers la cité céleste, d'autres qui sont allées un peu plus bas, n'est-ce pas? Mais il est certain, n'est-ce pas, que eux, c'est le, bien que le jugement dernier ne soit pas venu, mais malgré tout, n'est-ce pas, les positions, si vous voulez, sont arrêtées. Tandis que les nations de la fin, les nations qui, si vous voulez que je précise, des quelques années qui précéderont le retour du Seigneur Jésus, eh bien, ces nations-là, elles devront entendre l'Évangile, elles aussi, mais vous voyez que elles entendront l'Évangile qui leur sera annoncé pour servir de témoignage. Il n'est pas dit nécessairement que ces nations-là se convertiront, qu'il y en aura beaucoup qui se convertiront dans ces nations-là, c'est-à-dire aujourd'hui toutes les nations de la terre. L'Évangile est répandu un peu partout, certainement. Mais le nombre des hommes qui dans toutes les nations le refusent est de plus en plus grand. Alors, l'Évangile a été annoncé à ces nations-là, les nations de la fin, car nous savons que nous atteignons la fin, hein, pour leur servir de témoignage, en vue de quoi, si elles ne reçoivent pas l'Évangile, en vue du jugement, tout simplement. Le Seigneur Jésus, donc ici, n'est-ce pas, met l'Évangile comme, évidemment, la main tendue de Dieu, de la miséricorde de Dieu, mais celui qui méprise la main de Dieu, qui méprise la miséricorde de Dieu, eh bien, ce mépris même-là, ce refus de l'Évangile, sera pour lui la cause de sa condamnation au jugement dernier. C'est excessivement grave, est excessivement grave. Nous envisageons trop, surtout dans les temps de la fin maintenant, la prédication de l'Évangile comme devant être continuée, reprise, peut-être toujours devant un tas de gens ou dans des lieux où, en réalité, l'Évangile est refusé, hein? Et nous l'envisageons trop comme vraiment l'Évangile qui va nécessairement amener des âmes au salut, et il faut toujours, n'est-ce pas, le reprendre pour essayer d'amener toujours des âmes au salut. C'est bien de le voir dans ce sens-là, mais nous négligeons entièrement le rôle de la prédication de l'Évangile en vue de la préparation du jugement. Ah, nous le négligeons, et pourtant, Jésus, vous le voyez, l'a prêché. Hein? Alors, ces choses délicates, vous savez, ces choses très délicates, ça requiert beaucoup de consécration et de marche avec le Saint-Esprit, le Seigneur. C'est pas tout le monde qui peut aller parcourir une ville en secouant ses semelles, n'est-ce pas, secouant la poussière de votre ville, ce qui est un geste disant, eh bien maintenant, il n'y a plus que le jugement qui vous attend, n'est-ce pas, il n'y a plus que cela. Le royaume de Dieu était venu vers vous, vous ne l'avez pas voulu. C'est quelque chose, tout de même, qui est dans l'Évangile, et il faut le savoir. Alors, nous arrivons maintenant au verset 13, 13 à 15. « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde ou Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Ici, le Seigneur qui aborde donc cette idée de jugement parce que refus de sa parole, refus du royaume de Dieu, en vient à considérer trois villes qui ont acquis une responsabilité tout à fait grave, évidente, et ces villes, quoique Chorazine est très mal connue, mais les deux autres le sont mieux, Bethsaïda et surtout Capernaum, ces trois villes avaient donc connu un temps la lumière avait jailli dans leur sein, était venue là, et il faut admettre, puisque le Seigneur Jésus le dit, c'est lui qui peut faire un bilan ici, n'est-ce pas? Eh bien, ces villes-là ne se sont pas repenties, tout au moins comme il aurait fallu. Elles ne se sont pas repenties. Il y a certainement eu des âmes qui se sont repenties, mais ça n'a pas été un fait généralisé. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement. Or, Tyre et Sidon sont des villes d'autrefois aussi, d'avant la venue du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, qui avaient été hostiles à Israël, et par conséquent des villes qui ont préparé elles-mêmes leur propre jugement. Alors, là encore, du fait que c'est l'Évangile, du fait que c'est la prédication du royaume de Dieu, c'est la prédication transcendante, magnifique, merveilleuse. Il n'y en aura pas une autre derrière. Hein? Alors, cette prédication-là, on l'a refusée. Elle est venue avec la force du Saint-Esprit, attention. Elle est venue avec la force du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On s'est pas contenté de mettre un petit traité sous les portes ou dans les boîtes aux lettres, n'est-ce pas, pour condamner ces gens-là. Pas sur la base d'un petit traité distribué, n'est-ce pas? Mais c'est parce que la force du Saint-Esprit a été employée dans la prédication du royaume de Dieu. Eh bien, le jugement, nous dit le Seigneur, de ces villes-là, sera extrêmement grave. Il y a plusieurs questions qui se posent au sujet de cette parole du Seigneur qui est comme une sorte d'adieu. C'est tragique, c'est une parole qui sonne, vous savez, un véritable glas, un véritable glas. Faut pas s'y méprendre. Tomber des lèvres du Seigneur, c'est une sorte d'adieu aux villes où Christ avait lui-même prêché. Peut-on dire que là, le Saint-Esprit ne s'était pas entièrement employé à la prédication de l'Évangile? C'est une sorte d'adieu. Maintenant, c'est fini pour le règne, pour ces villes-là, c'est le jugement qui les attendent. Eh bien, les villes qui refuseront les envoyés du Seigneur, j'entends des envoyés, n'est-ce pas, qui viennent vraiment avec toute la puissance du Saint-Esprit, hein, cette réserve-là est nécessaire, eh bien, seront sur ce même plan. Une question se pose d'abord, mais est-ce que, alors, ces villes, qui sont des collectivités, vont être jugés en bloc. Chorazine, condamné, tout Chorazine. Bethsaïda, tout Bethsaïda. Capernaum, pire que toutes. Alors, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. C'est à Capernaum que Jésus avait habité un temps. Alors, vous pensez si Capernaum avait été comblé, enrichi, non seulement de la prédication, mais de tous les miracles que le Seigneur Jésus y avait accompli. Eh bien, peut-on dire que ces collectivités vont être jugées en bloc? Assurément pas. Ce n'est pas ce qu'a voulu dire certainement le Seigneur Jésus. Dans ces villes, il y aura eu certainement des âmes. Il y en a d'ailleurs. Nous regarderions les différents récits de l'Évangile, nous montrant notamment Jésus en Galilée, et nous verrions qu'il y a bien là des gens qui ont cru. C'est certain, qui ont cru au Seigneur Jésus et qui, par conséquent, échapperont à cet avertissement solennel et tragique du jugement qui les attend. Mais ça n'a pas été la généralité. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ça n'a pas du tout été la généralité. Alors, nous pouvons faire déjà une remarque, c'est que la prédication du Seigneur Jésus-Christ lui-même, je ne sais pas si c'est votre avis, mais je pense, on ne peut pas trouver meilleur. Ah, bien sûr, nous pouvons dire qu'elle est parfaite. Personne, n'est-ce pas, ne pourra prétendre avoir apporté la même puissance, le même déploiement de miséricorde que le Seigneur Jésus lui-même. Eh bien, malgré cela, une ville comme Capernaum où il a habité, et puis ces deux autres villes où il s'est rendu plus assez souvent, eh bien, elles ont en majeure partie refusé l'Évangile, chers amis. Alors, ne nous étonnons pas non plus, n'est-ce pas? Nous parlons souvent de notre impuissance, du manque de puissance qui est pour nous un fardeau, un poids, un sujet de prière. Eh bien, ne nous étonnons pas, n'est-ce pas, que malgré tout, dans certains lieux, il y ait une très petite moisson. Ne nous étonnons pas, puisque le Seigneur Jésus lui-même, dans des villes, n'a pas obtenu un très large résultat parmi la population. Hein. Alors, il est évident que ça arrive aussi, nous arrivera à nous aussi, le serviteur n'est pas plus que son maître. Voilà une première observation. Mais il y en a une autre. Donc la condamnation de ces villes n'est pas la condamnation de ceux qui, bien entendu, dans ces villes, auraient cependant reçu la prédication de Jésus et se seraient repentis. Mais voilà une autre observation à faire. Et celle-là, elle est assez difficile à élucider. Déjà dans le verset 12, je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement. Bon. Et puis, dans le verset 14, c'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Alors, pourront dire, mais comment? Il y a plus ou moins de rigueur selon un certain facteur. Quel est ce facteur? C'est la puissance qui aura été déployée dans ce lieu, n'est-ce pas? Autrement dit, le Seigneur, au moment du jugement, tiendra compte des iniquités, tiendra compte évidemment des crimes, des péchés, de l'orgueil qui se seront manifestés, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il tiendra compte aussi de la prédication, ou plus exactement, si vous voulez, des manifestations vues quantitativement ou vues dans leur puissance qui seront venues dans ce lieu. Si par exemple, n'est-ce pas, avec des péchés du même ordre, eh bien, dans un lieu, il y a eu beaucoup, un grand enrichissement dans la prédication et dans les signes, alors la condamnation sera rigoureuse. Mais, prenons une autre ville qui aurait les mêmes crimes, eh bien, là, il y a eu peu, les envoyés ont été peu nombreux, ils sont restés peu de temps, peut-être, ils n'ont pas pu apporter, peut-être, autant de lumière que dans d'autres lieux, alors, il y aura moins de rigueur. Bon, alors, ça, nous le comprenons, n'est-ce pas? Vous le comprenez. Mais, que signifie cette plus ou moins grande rigueur? C'est là le problème. Nous savons qu'il y a deux destinées, puis il n'y en a pas trois, ni quatre, ni cinq. Il n'y a pas une gamme On ne peut pas dire, par exemple, n'est-ce pas, que le châtiment qui tombera après jugement sur une population, par exemple, sera moins lourd que le châtiment qui tombera sur une autre. Non. Il y a l'enfer, il y a les peines éternelles, et il n'y a pas des étages dans l'enfer, dans les peines éternelles, n'est-ce pas? Si on est dans les peines éternelles, eh bien, on les subit. Nulle part dans l'Écriture, nous ne voyons des degrés dans le châtiment, dans la puissance du châtiment. Alors, qu'est-ce que signifie plus ou moins rigoureusement? Eh bien, cela signifie tout simplement que des hommes pourront être en réalité condamnés, alors que d'autres, avec les mêmes responsabilités, ne le seraient pas, parce que ils se seraient repentis peut-être, faut toujours la repentance, bien entendu, mais moins rapidement, ou pas autant peut-être, que d'autres qui, eux, auront entendu l'Évangile avec plus de force. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est très difficile de tenir compte de cette plus ou moins grande rigueur. Rigueur dans le jugement. Elle sera traitée moins rigoureusement. C'est ou le châtiment ou la vie éternelle. Bon, l'un des deux. Mais, n'est-ce pas, comment un homme ira-t-il dans la vie éternelle ou ira-t-il dans le châtiment? Alors ça appartient à Dieu. Et c'est là qu'interviendra certainement la plus ou moins grande rigueur. C'est tout ce qu'on peut dire de ce passage parce que le Seigneur ne l'a pas éclairé autrement. Mais, n'est-ce pas, nous savons une chose, c'est que à la fin des temps, voilà la leçon qu'on peut en tirer, Dieu rétablira toujours une balance égale entre tous les hommes. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut en retirer, une balance égale entre tous. Alors, le verset 16. « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Là, n'est-ce pas, cela vient corroborer encore ce que nous avons lu plus haut. Si la prédication de l'Évangile venant des envoyés de Dieu est accepté, est écouté, c'est tout comme si c'était le Seigneur lui-même qui soit écouté. Bien entendu, je fais toujours cette réserve, à condition que les envoyés soient de véritables envoyés, à condition que ce soient des gens qui détiennent un ministère certain et qu'ils l'exercent par la puissance du Saint-Esprit. Il y avait encore quelque temps quelqu'un qui me questionnait, n'est-ce pas, sur la Pentecôte, tout ça. Eh bien, moi, je lui ai dit une chose, je lui ai dit, écoutez, les avis qu'on peut avoir à droite et à gauche ne sont pas très intéressants. Ce qui est intéressant, c'est que pour faire les œuvres de Dieu, et pour notamment, par l'Évangile et sa prédication, retirer des âmes des ténèbres, et les amener à la lumière de Christ, il faut de la force, il faut de la puissance, et quelle puissance? Celle du Saint-Esprit, pas une autre. Voilà, maintenant, soyez contre la Pentecôte si vous voulez, n'est-ce pas, et ayez un tas de discours à faire. Moi, je vous dis une chose, si vous ne voulez pas du baptême du Saint-Esprit, et si vous dites gratuitement, mais le Saint-Esprit, nous l'avons, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, bon, eh bien, montrez surtout au Seigneur, que vous avez des fleuves d'eau vive sortant de votre sein, pas, et que vous pouvez amener des âmes au Seigneur. Si vous n'en amenez pas, reconsidérez la question. Pas ceux qui nous disent, par exemple, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, vous savez que ceux qui sont contre la doctrine qu'on appelle la doctrine de Pentecôte, enfin, surtout contre le Saint-Esprit comme seconde expérience, comme expérience pouvant être séparés de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Alors, ceux qui sont contre ça disent, à la nouvelle naissance, automatiquement, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, sans signe particulier, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Là, bon, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le cas, par conséquent, de toute personne qui se convertit à Jésus-Christ. Elle est baptisée dans le Saint-Esprit. Bon, voilà leur théorie. Et puis il vous cite un tas de versets. Bon, alors la chose à leur répondre est celle-ci. Écoutez, dans le chapitre 7 de l'évangile de Jean, le Seigneur, nous est-il rapporté, a fait à Jérusalem, une grande proclamation. Et il a dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Alors le Seigneur ajoute, et des fleuves d'eau vive sortiront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, il dit cela de ceux qui devaient recevoir le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien, mais le Seigneur étant glorifié, la Pentecôte étant venue, le Saint-Esprit étant donné, étant répandu, n'est-ce pas? Alors, ceux qui disent, je suis baptisé Saint-Esprit, qu'ils nous montrent ces fleuves d'eau vive sortant de leur sein. C'est pas une petite susurration, ça, n'est-ce pas? C'est pas un petit ruisseau, un petit ruisselet qui coule. Le Seigneur a dit des fleuves d'eau vive, une houille blanche, comme on dit, n'est-ce pas? Et quelque chose de puissant qui sort de leur sein. Alors voilà, n'est-ce pas? Voilà, au fond, ce à quoi il faut arriver. Et c'est comme ça que la prédication de l'Évangile répondra à ce que dit le Seigneur. Celui qui vous écoute, m'écoute. Mais attention, je ne sais pas si nous avons eu ici l'occasion d'étudier le témoignage. C'est une étude très intéressante et de nous apercevoir, de constater qu'il y a deux sources d'information, si vous voulez, deux sources, disons plutôt, de connaissances. Il y a la connaissance que l'on peut acquérir avec son intelligence et la foi, bien entendu, mais l'intelligence étant à l'œuvre, de la lecture des Écritures et de leur méditation. Une connaissance vient de ce côté-là. Mais par le Saint-Esprit, il y a une autre source de connaissance. Une source de connaissance qui ne monte pas naturellement au cœur de l'homme, c'est-à-dire qui ne vient pas par le truchement des facultés naturelles. Mais Dieu donne à cela, à ceux qui l'aiment, à ceux qui lui sont attachés, qui lui obéissent, il leur donne à cela, par l'Esprit Saint, de sonder même les profondeurs de Dieu. Et voilà, n'est-ce pas, que ceux-là ont une source dont parle l'apôtre Paul dans plusieurs de ses épîtres, particulièrement les Éphésiens et les Colossiens. Il parle là, n'est-ce pas, d'une source, soyez fortifiés dans votre être intérieur, afin que vous compreniez l'amour du Seigneur, afin que vous ayez quelque chose qui surpasse toute intelligence. Il y a une autre source, et ça, la source du témoignage, c'est ça le fleuve d'eau vive qui sort du sein de quelqu'un. Ça ne sort pas de sa tête. Le Seigneur n'a pas dit ici, n'est-ce pas, je vous envoie comme des représentants, je vous envoie comme des avocats, ou comme des professeurs de doctrine, des professeurs d'école biblique. Non, celui qui vous écoute, m'écoute. Mais c'est solennel, ça. Mais c'est important. Votre parole, la parole qui va sortir de vous, sera ma parole. Oh, chers amis, mais c'est ça que ça veut dire. Ou alors, n'est-ce pas, on ne comprend rien à l'Évangile, mais nous savons, n'est-ce pas, tout le poids que le Seigneur mettait dans les paroles, et que le Saint-Esprit, d'une manière générale, met attache à toutes les paroles. Nous disons que c'est la parole de Dieu. Eh bien oui, c'est la parole de Dieu, mais recevons-la comme telle. Celui qui vous écoute, m'écoute. Il faut qu'il en soit ainsi. Il faut par conséquent que ce soit par un jaillissement, fleuve d'eau vive, ça c'est la belle image, sortant de votre sein. Ça ne va pas sortir de là, c'est pas quelque chose de cérébral, c'est pas une leçon apprise. C'est pas une leçon qu'on répète, des choses qu'on sait par cœur, c'est pas ça. C'est un témoignage de Jésus, un témoignage de Jésus, Jésus crucifié, c'est un témoignage qui sort là. Et c'est ce témoignage-là qui fait de l'œuvre, parce que il a la force, il prend, il revêt la force qu'avait l'autorité, et l'autorité du moins qu'avait la parole du Seigneur Jésus. La force et l'autorité. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui m'écoute ainsi, dans ces conditions-là, écoute celui qui m'a envoyé, le Père Céleste. C'est une chose d'une gravité extraordinaire, d'une gravité extraordinaire. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de ça, mais moi je l'ai faite. Eh bien oui, parce que, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, ces paroles-là sont trop belles pour qu'on n'en mesure pas la grandeur et l'importance. Il m'est arrivé, je me souviens, de rentrer avec un frère pendant un temps, j'allais quelquefois avec un autre frère, de rentrer, je me rappelle, dans une ferme, une certaine ferme, et il y avait là pas mal de personnes qui voulaient nous recevoir, nous voir. Et alors, je me suis arrêté avec le frère, et puis je dis, nous allons prier. Et nous étions sur ce passage-là, et puis sur d'autres aussi, qui sont équivalents. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as dit cela, celui qui vous écoute, m'écoute. Alors, Seigneur, nous allons parler à ces gens, en vue de quoi? En vue de leur salut. Tu nous envoies chez eux pour qu'ils soient sauvés. Alors, il faut que nous leur apportions une parole qui soit la tienne. Il faut que ce soit ensemble toi qui entre et non pas nous. Toi, Seigneur, qui entre et qui soit là, même si c'est notre visage, nos pieds, nos mains, mais nous te les prêtons, mais que ce soit toi, Seigneur. Ce que nous voulons, n'est-ce pas, c'est que, à travers notre personne, ce soit toi qui parle et qui agisse. Alors, Seigneur, fais-le, nous avons prié un moment, là, dans un taillis, puis nous sommes entrés dans la maison, on s'est assis à table. Eh bien, mes chers amis, je n'ai jamais vu une chose pareille. C'était extraordinaire. On aurait dit, en effet, que le Seigneur était là. J'en étais au début gêné. N'est-ce pas? Je dis, mais attention, il faudrait pas quand même qu'ils nous prennent pour le Seigneur. Nous sommes pas le Seigneur, n'est-ce pas? Mais c'était extraordinaire. Nous disions, nous avions ouvert la Bible un peu, mais nous avions surtout parlé, n'est-ce pas, du témoignage, du salut, de l'amour du Seigneur. Mais c'est extraordinaire. Ces âmes-là étaient là. Elle buvait la parole. Et ce jour-là, j'ai compris pratiquement ce qu'était l'autorité de la parole du Seigneur, et que pour que cette autorité soit mise en œuvre, il faut demander au Seigneur qu'il mette une telle parole en œuvre. Il faut le prier avec ça. Ça, c'est une promesse avec laquelle il faut prier le Seigneur. Seigneur, j'entre là, parce que tu m'y envoies. Eh bien, que ce soit toi qui parles. C'est ma bouche qui parle, mais ce sera toi qui parleras. Ça, c'est l'Évangile dans toute sa splendeur. Voilà, chers amis. C'est pour ça que j'aime beaucoup les visites à domicile. J'en ai fait beaucoup, et je les aime beaucoup, ces visites-là. Persistez, persévérez, parce que là, véritablement, vous allez accomplir l'œuvre du Seigneur. C'est très bien de faire des réunions, mais ça ne suffit pas. Il faut aller apporter l'Évangile. Il faut aller, le Seigneur ouvre des portes, il faut que l'on puisse apporter sa parole à un des personnes qui vont l'écouter comme telle. Que le Seigneur soit béni. Amen.